France Info.
Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux.
Bonjour.
Les candidats au bac philo plongent donc depuis un peu plus d'une demi-heure maintenant un peu partout en France. Quel élève étiez-vous au bac et quelle note aviez-vous eue ?
J'étais pas mauvais, j'ai eu je crois juste 14 de moyenne, voilà. Et j'étais un élève j'en sais rien, studieux. Et philosophe, j'aimais bien la philo. Je trouve que c'est une particularité française, on oublie qu'il y a qu'en France, dans les pays occidentaux, qu'on fait encore de la philosophie.
C'est ce que j'allais vous demander, quelle est l'épreuve pour vous la plus importante, la philo ou l'économie ?
Je vais répondre pas l'économie. L'économie, on l'apprend finalement dans la vie quotidienne. Je pense que la philo, c'est une particularité à garder en France. Et puis les maths, parce que le monde de demain, c'est un monde de maths.
Renaud Delic.
Monde d'algorithmes.
Vous vous souvenez du sujet que vous aviez eu en philo d'ailleurs ?
Au bac, non, mais je peux vous raconter le 11 mai 81, que c'était les concours des grandes écoles. Peut-on changer le cours de l'histoire en philo?
Le lendemain de l'élection de François Mitterrand.
Le lendemain de l'élection de François Mitterrand, vous voyez.
Allez, beaucoup de dossiers à voir avec vous, commencer par la réforme de l'assurance chômage que le gouvernement va annoncer demain, Renaud.
Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de cette réforme que le gouvernement doit annoncer demain? On se souvient que si le gouvernement a repris la main, selon les termes de Muriel Pénicaud, c'est parce que les partenaires sociaux ne s'étaient pas mis d'accord eux-mêmes. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de cette réforme de l'assurance chômage? Est-ce que vous trouvez, Geoffroy Roux de Bézieux, que le système est à vos yeux aujourd'hui trop généreux?
Je viens de faire une vingtaine de déplacements dans des MEDEF territoriaux, donc dans des régions ou des villes moyennes, et quand je demande quel est votre problème numéro un, on me parle pas des impôts, on me parle pas des charges sociales, on me dit la difficulté à recruter. D'ailleurs, on le voit, puisqu'on a une énorme, on a eu un taux de croissance important en 2017, relativement significatif en 2018, et le chômage baisse pas assez, même si on a créé des emplois. Donc, l'objectif numéro un de cette réforme, elle doit être d'inciter à la reprise d'emploi, d'avoir un système incitatif.
C'est pas une question de générosité aujourd'hui. Bah, elle est liée, donc, dans votre esprit, cette difficulté à recruter à une indemnisation trop élevée.
Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord un problème d'adéquation entre la formation des demandeurs d'emploi et les métiers qui recrutent. Il y a un problème de mobilité géographique, de logement. On en a parlé longuement pendant l'affaire des Gilets jaunes, du coût du déplacement. Mais oui, il y a des cas. Et je suis pas en train de dire que tous les chômeurs sont des gens qui veulent pas travailler, mais il y a des cas où le système, et c'est pas la faute des demandeurs d'emploi, mais plutôt du système, n'incite pas à travailler. Et donc c'est ça qu'il faut réformer en priorité.
Dans quelle proportion, Geoffroy Roux de Bézieux?
Écoutez, il y a une étude de Pôle emploi qui a été polémique, mais qui est assez claire, qui dit que dans 20% des cas, le revenu de l'assurance chômage est proche ou égal au revenu de l'emploi.
Ce qui ne veut pas dire que les chômeurs qui touchent ces allocations-là ne font rien pour quitter le chômage.
Bien sûr, c'est pour ça que moi je n'accuse pas les individus, je pense que le système est mal fait. Et si vous rajoutez le coût de déplacement, quelqu'un qui doit, pour prendre un emploi, faire 40 ou 50 kilomètres par jour avec un véhicule individuel, il est clair que le système doit être mieux calibré. Donc c'est pour moi l'objectif numéro un de cette réforme. On a essayé de le faire avec les syndicats, on n'y est pas arrivé, le gouvernement reprend la main, moi j'ai pas de problème avec ce principe.
Parmi les mesures que le gouvernement va donc annoncer demain, il y aura le principe d'un bonus-malus pour les entreprises qui abusent, en tout cas le malus, des CDD. C'est une bonne idée ou pas ?
Alors c'est pas du tout ça qu'il va y avoir. Il va y avoir un système, et je pense que personne n'est allé au fond du système, qui est la taxation du turnover. C'est-à-dire vous prenez le nombre de gens qui se sont inscrits à Pôle emploi et qui étaient dans l'entreprise, et puis ça fait un taux, et vous le comparez à la moyenne, et vous avez un bonus ou un malus. Alors il y a des cas où effectivement c'est des CDD peut-être parfois abusifs, mais quand vous avez un remplacement, ça compte. Quand vous avez un contrat pour un chantier et que vous prenez les gens pour 6 mois, ça compte. Quand vous avez une nouvelle commande, ça compte. Quand vous avez des difficultés dans une entreprise une année, que vous êtes obligé de vous séparer de salariés, ça va compter. Donc en fait, on a un système très complexe qui malheureusement n'aura aucun effet sur ce qui est recherché, qui était de transformer des CDD courts en CDI ou en CDD plus longs.
C'est quand même ça la base du problème aujourd'hui du marché du travail. Geoffroy Roux de Bézieux, près de 90% des embauches se font en CDD, et parmi ces CDD, la majorité quasiment des CDD de moins d'un mois. Donc c'est quand même on peut comprendre du point de vue des chômeurs qu'il faille s'attaquer à cette précarité.
Je ne nie pas le problème. D'ailleurs, on avait proposé des solutions. Le problème, il est quoi ? Partout dans le monde occidental, vous avez ce qu'on appelle l'augmentation de l'économie à la demande. C'est-à-dire, ça part du consommateur, hein, qui demande à être livré tout de suite sur Amazon pendant la période des soldes. Et du coup, les gens, on est obligé de recruter des gens de manière très intensive pendant plusieurs semaines. Donc, on a des contrats, enfin, on a des périodes de visibilité activité qui sont très courtes. Derrière ça, il y a deux formes de contrats, CDD ou CDI. Et c'est vrai C'est vrai, moi je suis d'accord avec ça, que dans certains cas, les entreprises ont tendance à multiplier les CDD courts avec la même personne. Et nous, on avait proposé de corriger ce point, parce que là, on peut embaucher en CDI. Mais c'est pas ça que prépare le gouvernement. C'est un système qui est très complexe, d'une part, qui est punitif, d'autre part, et qui n'aura pas l'effet escompté. Donc moi, le premier président de la République, on va pas se mettre en travers, on ne peut pas aller contre. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, ça n'aura pas d'effet sur la nature des contrats. Et je termine.
Vous reconnaissez quand même qu'il y a certains abus. Dans quel secteur, par exemple?
Je suis pas là pour pointer.
On pointe beaucoup l'hôtellerie-restauration.
Je suis pas là pour pointer des secteurs. Je dis juste que parce que le système est ainsi fait, il y a des cas où on peut trouver effectivement des salariés, toujours les mêmes, recrutés plusieurs fois de suite par un employeur. Et ça, il faut le corriger. On avait fait des propositions. J'ajoute un dernier point. Depuis plusieurs trimestres maintenant, la part des CDI augmente. Alors, je suis prudent.
Elle restera minoritaire, oui.
Oui, mais je suis prudent. Ça fait plusieurs trimestres, on peut pas dire que c'est une tendance de fond. Donc, je suis pas sûr que ça soit le bon moment pour remettre un système complexe en place. Par contre, à plus long terme, je pense qu'il faut réfléchir au contrat de travail. On a en France un système où on a un CDD qui est, entre guillemets, très flexible parce qu'il permet de mettre fin sans justification au contrat, parce que la date est prévue, et un CDI qui l'est beaucoup moins. Moi, je suis prêt à ouvrir une discussion avec les syndicats sur la nature des contrats de travail.
Pour aller vers un contrat unique ?
Contrat unique, peut-être pas, mais peut-être un socle unique avec différentes modalités de fin. En tout cas, c'est une réflexion qu'il faut, je pense, développer.
Le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, l'invité de France Info jusqu'à 9h. On va s'interrompre quelques instants, si vous le voulez bien, puisqu'il est 8h40 et que c'est l'heure du résumé de l'actualité avec David Dauba.
La barre de céréales et la carte d'identité sur le coin de la table, les sujets lus et relus pour éviter le contresens. Depuis 8h maintenant, les candidats du bac général planchent sur les sujets de philo. Ils ne seront pas les seuls aujourd'hui à travailler. Quelques heures plus tard, les candidats du bac pro et les lycéens de première en feront de même avec l'épreuve de français. Sur France Inter, Jean-Michel Blanquer a annoncé ce matin qu'il n'y aurait pas de conséquences à la grève des professeurs. La maison du couple à Grès-la-Ville, puis le bois des moulins, reconstitution depuis 5h ce matin en présence de sa famille du meurtre d'Alexia Daval. Et son mari avait avoué en octobre 2017 l'avoir tué. Un enfant de 3 ans est mort noyé. Ça s'est passé hier dans un canal sur la commune de Millas, dans les Hautes-Pyrénées, dans les Pyrénées-Orientales, pardon. Il était en train de jouer quand il est tombé dans l'eau avant d'être happé par une buse. Et puis le Rassemblement National a donné hier soir, depuis La Rochelle, le coup d'envoi de sa campagne pour les municipales. Marine Le Pen tend la main à tous ceux qui, dit-elle, souhaitent construire une force d'alternance en vue de 2022.
Geoffroy Roux-de-Bézieux, parmi les autres annonces que fera demain le gouvernement, il y a la dégressivité des allocations chômage pour les plus hauts revenus et notamment ceux des cadres. Est-ce que vous trouvez que les cadres sont trop indemnisés ou trop bien indemnisés en France?
Ils sont indemnisés en fonction des cotisations qu'ils ont payées et surtout que les entreprises ont payées, puisque maintenant il n'y a plus de cotisations salariées. Donc en bonne cohérence, le système s'appelle assurance chômage, on devrait baisser la prime d'assurance. C'est-à-dire qu'on peut entendre l'argument de dire que le chômage des cadres est très bas, hein, 3,5%, en tout cas pour les moins de 50 ans.
L'argument du gouvernement, c'est de dire qu'ils retrouvent plus rapidement du travail, donc ils n'ont pas besoin d'être indemnisés
à 100% aussi longtemps. Mais à ce moment-là, il faut baisser les cotisations des employeurs qui payent très cher pour les indemniser. Donc en fait, encore une fois, on ne connaît pas le projet définitif, mais ce qui risque de se produire, c'est que on baisse l'indemnité, mais on garde les cotisations pour faire autre chose.
Quand
et ça,
vous dites,
c'est pas normal.
Quand vous dites on ne connaît pas le projet définitif, vous avez rendez-vous ce matin chez la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Le texte, pour l'instant, vous ne l'avez pas. Vous n'avez rien.
Non, il y a eu beaucoup de discussions,
depuis que le gouvernement a repris la main.
Oui. On en connaît les grandes lignes, mais vous les
connaissez par la lecture de la presse ou de temps en temps, il y a encore des mails qui arrivent de la part du gouvernement.
J'ai envie de dire les deux, mon général. C'est-à-dire qu'on a des discussions. Je pense que les discussions ont lieu avec nous et avec les syndicats de salariés, mais on n'a pas de certitude. Il y a une réunion demain matin avec Édouard Philippe où on aura, le véridique final.
Le gouvernement a aussi annoncé 5 milliards de baisses d'impôts pour les Français, pour les contribuables, pour les foyers fiscaux. Et pour financer ces baisses d'impôts, le gouvernement cherche un peu dans les niches fiscales, un certain nombre de niches fiscales qui profitent aux entreprises. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, était notre invité ici même à votre place, c'était jeudi dernier, et il en a déjà identifié une.
Il va de soi que des niches fiscales qui favorisent la consommation d'énergie carbonée, d'énergie fossile, c'est incohérent par rapport à notre politique. Je pense au gazole non routier, qui a aujourd'hui une taxation qui est plus faible. Il faut regarder cela.
Alors, il y a donc cette niche sur le gazole non routier, il y en a d'autres, une autre sur le mécénat. Est-ce qu'il est temps qu'effectivement les entreprises mettent la main à la poche pour financer ces baisses d'impôts?
Ce qui nous inquiète, et ce qui devrait inquiéter les Français, c'est non pas 5 milliards, mais plus de 17 milliards de dépenses qui ont été annoncées depuis décembre. On peut d'ailleurs comprendre le contexte de Gilets jaunes, et qui sont pas financées, puisqu'il n'y a aucune annonce de baisse de dépenses publiques. Ça inquiète les entrepreneurs, qui se disent un jour ou l'autre on va payer, s'inquiète même les Français puisqu'ils ne consomment pas ce pouvoir d'achat qui leur a été donné.
Alors c'est précisément pour les financer que le gouvernement sollicite les entreprises.
Je me permets de dire, 5 milliards, c'est pas que 5 milliards. Alors après, les niches fiscales c'est quoi? C'est des réductions d'impôts qui ont été données aux ménages et aux entreprises parce que les impôts sont trop élevés. Au cas particulier, le gazole non routier, on peut se dire effectivement pourquoi détaxer le gazole qui va pas dans le sens de verdir l'économie.
Utilisé par les entreprises de BTP en particulier.
Voilà, c'est la construction, c'est les grues, c'est un certain nombre de secteurs. Le problème, c'est que cette réduction d'impôts, elle est constitutive de la profitabilité du secteur. Ce sont des PME qui font en général 1 ou 2% de résultats, à qui on va dire brusquement et sans les prévenir, eh ben on vous retire sous-taxation qui est en fait plus ou moins le résultat de l'année. Donc tout est entendable, mais simplement il faut que ça s'inscrive dans une baisse générale des dépenses publiques. Or c'est pas le cas, puisque pour le moment la seule chose qui a été annoncée par Édouard Philippe, c'est on va supprimer des organismes inutiles. Ça fait 30 ans qu'on entend ça, et en réalité ça correspond à une fuite en avant.
Sur la niche du mécénat, qui permet de déduire de ses impôts 60% des sommes investies notamment dans les œuvres d'art, vous avez le même discours, ou vous considérez que là il y a quelque chose qu'on peut raboter?
C'est un peu différent, mais encore une fois, je ne suis pas là...
De mémoire, 1 milliard d'euros par an.
900 millions, voilà. Tout compris.
Ce qui fait quand même
beaucoup. Mais oui. Par ailleurs, les entreprises dépensent 4 milliards de mécénat, donc elles sont loin de demander toute la réduction d'impôts. Si vous voulez, moi je veux pas m'attacher à défendre, j'allais dire, niche après niche. Le sujet, c'est, nous on est prêts à participer à l'effort, on l'a montré d'ailleurs avec la prime qu'on appelle la prime Macron, moi j'appelle ça la prime patron. Les entreprises ont versé volontairement 2 milliards d'euros à leurs salariés.
Défiscalisés aussi.
Défiscalisés, mais enfin c'est quand même 2 milliards d'euros qui sont sortis de la poche de l'entreprise.
Sans payer la moindre charge dessus.
Oui, mais pardon, argument ne tient pas. C'est que avant il y avait 2 milliards dans l'entreprise, après il y a 2 milliards chez les salariés. Donc c'est bien les entreprises qui ont payé.
Mais l'État
donc,
aussi fait un effort, puisque cette prime
est défiscalisée. L'État n'a rien payé du tout. Mais pardon,
certaines de ces entreprises, Geoffroy Roux-de-Bézieux, auraient versé cette prime.
Faux. Parce que, figurez-vous que L'URSSAF veille, vous savez, l'URSSAF...
Il n'y a aucune entreprise qui aurait versé une prime qui aurait été fiscalisée en fin d'année dernière.
Toutes celles qui ont versé une prime de chaque année vont avoir un contrôle URSSAF dans la foulée. Ça s'était produit il y a 10 ans pour vérifier que le montant de la prime qu'ils ont versé est bien supérieur à ce qu'ils versaient chaque année. Et je peux vous dire, moi c'est mon cas, j'ai versé 2 primes. Et tous les patrons ont fait pareil. Ils ont versé une prime qui correspond éventuellement à la prime, j'allais dire traditionnel, qui est versé chaque année, où ils ont payé les charges sociales et les impôts, et puis une deuxième prime défiscalisée. Sinon, vous inquiétez pas.
Le gouvernement veut en tout cas pérenniser cette prime, ça c'est une bonne chose.
C'est une bonne nouvelle. Mais non, je reviens juste sur l'effort de guerre, parce que c'est ça votre question. C'est, est-ce qu'on est prêt à participer à l'effort de guerre? Oui, on l'a fait, on est prêt à continuer, on veut que ce pays réussisse, qu'il y ait de la prospérité, mais pas sous forme d'économie punitive, premièrement, et surtout on veut un cap. Et ce qui nous inquiète énormément, moi je vois des chefs, ce qui doute, c'est on augmente les dépenses et on voit pas comment les dépenses et on ne réduit pas le train de vie de l'État.
Donc vous voulez couper dans les dépenses publiques, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Alors dans quoi? Dans quel secteur? Est-ce que vous regrettez que le président semble abandonner l'objectif qui était le sien de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat?
Oui, moi je suis pas dans la chasse aux fonctionnaires, mais on a plus de fonctionnaires par tête d'habitant que n'importe quel autre pays au monde.
Et on est aussi sans doute mieux soigné que dans beaucoup de pays au monde, par exemple.
Mais je crois pas. Oui, par rapport aux États-Unis, mais on est en Allemagne. Est-ce que vous êtes mieux soigné en France qu'en Allemagne? Je ne crois pas. Est-ce que les résultats scolaires, pour prendre cet exemple-là, on a plus de personnel d'éducation nationale que partout dans le monde? Est-ce que nos classements internationaux, les lycées ou les écoles primaires progressent? Je ne crois pas.
Vous
malheureusement, ils régressent.
Des postes enseignants.
Je veux que simplement on gère la fonction publique de manière plus efficace. On sait tous qu'il y a, c'était d'ailleurs publié il y a quelques mois, que le temps de travail dans la fonction publique, notamment territoriale, est très en dessous des 35 heures. On sait tous que le taux d'absentéisme dans certaines professions est très bas, donc il y a des efforts à faire. Chacun est prêt à faire des efforts, et les entreprises doivent faire les efforts. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais ça peut pas être uniquement sur les entreprises, sinon qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on a fait depuis 4 ans, c'est-à-dire la politique de l'offre qui permet de créer des emplois, on va l'arrêter, et malheureusement, c'est le chômage qui va remonter.
Geoffroy Roux-de-Bézieux, sur la réforme des retraites, à présent, on a bien compris que le gouvernement ne toucherait pas à l'âge légal de départ à la retraite et le conserverait à 62 ans. Mais on a bien compris aussi qu'il va sans doute falloir travailler plus longtemps, jusqu'à 64 ans, sans doute ce que le gouvernement appelle l'âge d'équilibre, pour continuer à toucher la même retraite que précédemment. Est-ce qu'il y a une entourloupe, comme le disent tous les syndicats ?
Je ne sais pas s'il y a une entourloupe.
Est-ce que le gouvernement ne devrait pas avancer, démasquer en disant oui, on change l'âge légal ?
L'âge d'équilibre, c'est quoi ? C'est nous qui, les premiers, avons parlé de ce chiffre de 64 ans. C'est simplement l'âge qui correspond à l'augmentation de l'espérance de vie. On vit plus vieux. C'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Ce sujet de la retraite, on le prend toujours par le côté anxiogène, mais en réalité, c'est une bonne nouvelle. Après, nous, on dit il faudrait mieux repousser l'âge légal à 64 ans parce que c'est plus clair et c'est plus efficace. L'âge pivot ou l'âge d'équilibre qui consiste à mettre une décote, il faut que la décote soit significative pour faire des économies.
Pour l'instant, le mot de décote n'a pas été prononcé, on se parle simplement d'un bonus dans le discours de politique générale.
Je crois que certains ont parlé de décote.
On est d'accord que c'est ce qui nous attend.
Bah, de toute façon. Mais vous savez, en 1981, on passait 14 ans à la retraite, quand on est passé de 65 à 60 ans. Aujourd'hui, on passe 27 ans. C'est une formidable nouvelle. Mais à un moment, il faut quand même que quelqu'un paye. Et comme on est un système par répartition, hein, faut que les Français entendent on est le seul pays de l'Occident, de l'OCDE, où ce sont les actifs qui payent pour les retraités. Donc il n'y a pas 36 solutions, il faut travailler plus longtemps.
Donc de fait, c'est la fin de la retraite à taux plein à 62 ans.
Alors écoutez, je ne connais pas le projet du gouvernement, mais nous, ce qu'on souhaite, effectivement, c'est que les Français travaillent plus longtemps, tous secteurs confondus, fonction publique et privée. Et nous, là-dessus, on a aussi un effort à faire. Vous ne me posez pas la question, mais je vais l'anticiper. Allez-y. Il faut qu'on soit capable, entre 65 et 64 ans, 65 et 65
d'emploi
ans,
des seniors.
Voilà, d'employés. On l'a fait entre 55 et 60 ans. On a fait énormément de progrès depuis que la retraite est passée à 62 ans. Il faut qu'on fasse la même chose dans les entreprises entre 65 et 65 ans.
Il est 9h10 sur France Info. David Dauba pour le rappel de l'actualité.
Le plus jeune a un petit peu plus de 11 ans, le plus âgé 77. Depuis 8 heures maintenant, les 554 000 candidats des bacs généraux et technologiques planchent sur les tant redoutés sujets de philo. Une inconnue évidemment, la grève lancée par plusieurs syndicats. Jean-Michel Blanquer a prévenu que des remplaçants étaient de toute façon dans tous les centres d'examen. Il évoquait ce matin 5% de grévistes. Emmanuel Macron attendu pour sa part au salon du Bourget ce matin. Le chef de l'État doit assister à la signature du contrat cadre du futur avion de combat franco-allemand. Le 53e salon ouvre ses portes aujourd'hui. Le militant pro-démocratie Joshua Wong, libéré ce matin à Hong Kong. Le leader étudiant appelle désormais à la démission de la chef de l'exécutif. Selon lui, elle doit assumer ses responsabilités. Hier, jusqu'à 2 millions de personnes, selon les organisateurs, se sont retrouvées dans les rues. Et puis, les Françaises, on le sait, sont déjà qualifiées pour les 8e de finale. Seul enjeu du coup de terminer première ou non de leur groupe. On parle évidemment de foot. Les Bleus affrontent le Nigeria ce soir à 21h depuis Rennes. Match largement à leur portée. Corinne Diacre pourrait du coup décider de ménager certaines cadres en alignant les remplaçantes.
C'est toujours le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, qui est notre invité jusqu'à 9h et les questions de Renaud Dely.
Geoffroy Roux-de-Bézieux, le MEDEF compte très peu de femmes, seulement 8% de femmes aujourd'hui à la tête de ses fédérations professionnelles. C'était le sujet ce matin de la chronique économique de Fanny Guinochet sur l'antenne de France Info. Et vous envisagez, Geoffroy Roux-de-Bézieux, de faire adopter une charte pour pousser cette proportion de présence des femmes jusqu'à 30% d'ici 3 à 4 ans. Pourquoi est-ce que vous ne me prenez pas carrément la parité ?
Alors, 30%, c'est la parité économique. On a 30% de femmes chefs d'entreprise. Donc, on part, j'allais dire, du tissu de chefs d'entreprise pour les représenter. Bon, 8%, c'est un scandale absolu. C'est malheureusement historique et ça s'améliore pas. Donc,
pourquoi ? Mais,
pour plein de raisons, j'allais dire de manque de courage. Moi, je suis avec des fédérations qui sont mes adhérents, en quelque sorte mes actionnaires. Donc, mon rôle, c'est de les inciter à promouvoir des femmes en tant que président, en tant que directrice générale de leur fédération. Donc, on s'est mis cet objectif. Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que c'est travaillable par secteur. Vous avez des secteurs de l'économie qui sont plus féminisés que d'autres. Mais l'idée, c'est d'emmener tout le monde vers une parité économique qui peut être une première étape pour une parité absolue.
En l'occurrence, c'est une charte simplement, donc qui sera non contraignante. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de pénalité, ça suffit.
Je n'ai pas de pouvoir de sanction sur mes actionnaires ou mes adhérents. Je ne suis pas le gouvernement. Donc, mais moi, ce que je leur ai dit, et ce que je leur dirai cet après-midi quand on en discutera, c'est que si nous, on ne prend pas le taureau par les cornes et qu'on ne fait pas œuvre de volontariat, un jour ou l'autre, il y aura une loi, il vaut mieux que ça soit nous qui le fassions. Et puis d'un point de vue simplement, j'allais dire, efficacité, bon, on pousse toujours la féminisation, j'allais dire, pour un côté un peu presque politiquement correct, moi je pense qu'on est plus efficace quand on est plus divers autour de la table.
Et vous allez montrer l'exemple, vous, dans votre entourage proche, à la tête du MEDEF. Alors, vous avez essentiellement des vice-présidents.
J'ai déjà une vice-présidente qui a été, bon, le problème c'était...
Une seule sur
4 ans, ouais, 4 ?
Si je puis me permettre, c'était le fruit de la campagne. Il y avait 9 candidats, il y avait 8 candidats hommes et une candidate femme. Donc c'était un peu compliqué, j'allais dire, au moment de la campagne. Après, oui, dans les commissions, par exemple, pour prendre cet exemple-là, il y a 14 commissions, plus le gouvernement, il y a un homme, une femme à chaque fois.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a relancé le débat sur les quotas de migrants. Ces derniers jours, il s'interroge notamment sur leur utilité en ce qui concerne les migrants économiques. Est-ce que le patronat que vous représentez, Geoffroy de Roux-de-Bézieux, y est favorable ?
Écoutez, c'est une question sur laquelle on s'est jamais prononcé, et moi j'ai demandé aux COMEX moins de 40, c'est-à-dire, enfin, donc les jeunes du MEDEF, si vous voulez, de travailler sur le fond, parce que c'est pas un sujet sur lequel on peut, j'allais dire, se prononcer rapidement. Moi, à titre personnel, j'y suis favorable. Pour deux raisons. La première, c'est que l'économie, l'entreprise, c'est souvent le meilleur moyen d'intégrer des gens qui viennent d'une autre culture ou d'un autre continent, première chose. Et deuxième chose, toutes les études nous montrent que le 21e siècle sera un siècle de migration. Et pas seulement d'ailleurs sud-nord, comme on le connaît en Méditerranée, mais plus global. Donc je pense que les entreprises ont intérêt à réfléchir à ça.
À quoi ça pourrait ressembler ?
C'est compliqué parce que ça nous oblige. C'est pour ça que le sujet n'est pas simple et mérite pas une réponse, vous voyez, en quelques minutes. Ça nous oblige d'abord à réfléchir aux besoins économiques en termes de quel poste, quel type de qualification, etc. Ça nous oblige à avoir un énorme effort de formation, parce que il faut déjà commencer par la culture, la langue, etc. C'est pas seulement une formation technique. Et puis ça nous oblige dans l'entreprise à réfléchir un peu plus largement que simplement un règlement intérieur, arriver à l'heure et soyez présent au boulot. Vous voyez, c'est un chantier énorme sur lequel on va se pencher.
Pour vous, il s'agirait de faire venir de l'étranger des personnes qui pourraient répondre à des besoins qui ne sont pas pourvus en France. C'est ça l'idée ou pas ?
Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Oui. Où en Allemagne, ils ont un énorme problème de démographie. Et le patronat allemand a essayé de soutenir l'initiative de Merkel au moment de l'afflux de migrants.
L'intégration d'un million de réfugiés.
Exactement, oui. il y a 2 ans. Mais évidemment, on peut, entre guillemets, raisonner en théorique en disant on veut des migrants hautement qualifiés pour les postes qui nous manquent, je sais pas quoi, moi, data scientist. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que les migrations, ce sont des gens qui fuient leur pays, qui fuient quelquefois la dictature, quelquefois la misère, et qu'il faudra former et qui auront probablement des compétences limitées, même s'il y a des exceptions. Le fantasme du médecin syrien qui arrive super diplômé et qu'on peut intégrer facilement parce que il a des diplômes derrière, c'est extrêmement minoritaire. Donc c'est un sujet complexe. Je passe pas sûr qu'on puisse répondre par oui ou par non aussi simplement.
Après avoir enclenché les privatisations d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, indiquait ici même il y a quelques jours qu'il n'excluait pas de nouvelles cessions d'actifs de la part de l'État, de nouvelles privatisations. Est-ce que vous pensez que l'État doit continuer de privatiser? Et si oui, dans quel secteur?
Alors, la question, elle est plus large que ça. C'est est-ce que l'État est un bon actionnaire?
Votre réponse?
Quand on regarde depuis 30 ans, on peut considérer que son rôle d'actionnaire n'a pas été très performant. Alors après, il peut rester actionnaire dans des actifs stratégiques. Je prends le cas d'ADP qui a été très polémique. Je sais qu'aujourd'hui, il y a encore une réunion des communistes et des LR sur le sujet. Qu'est-ce que c'est qu'un aéroport aujourd'hui? Est-ce que c'est un actif stratégique ou est-ce que c'est au fond, excusez-moi l'expression, un centre commercial avec des boutiques qui gèrent des créneaux de vol? Ben, je pense que c'est plutôt la deuxième et qu'on peut même séparer l'aspect créneau de vol et qu'un bon gestionnaire d'aéroport, c'est pas forcément l'État. Par contre, dans des entreprises stratégiques de technologie, la question peut se poser.
Sur Aéroports de Paris, il y a une procédure en cours, un référendum d'initiative partagée, une collecte de signatures pour l'organisation de ce référendum qui a commencé. Est-ce que vous vous réjouissez de cette initiative démocratique qui est inédite en France ou est-ce qu'à l'inverse, elle vous inquiète ?
Alors, enfin, moi, je suis favorable à la privatisation d'ADP.
Est-ce que vous êtes favorable? Parce qu'il y a un débat et même un référendum sur le sujet.
Le principe du RIP ou du RIC, je sais plus comment il s'appelle.
C'est le référendum d'initiative
partagée.
Voilà,
partagé, populaire, citoyen, civique, tout ce que vous voulez. pourquoi pas, on sent qu'il y a une forme de demande et de frustration. Moi, il y a une phrase que j'ai citée.
Donc vous pourriez signer, vous aussi,
parce que je suis pour la privatisation.
Ah, on peut être pour un référendum pour et signer. Tout en étant...
Ouais. Non, j'ai écouté François Ruffin, je crois que c'était sur cette antenne, il y a quelques temps.
Non, c'était une autre. Mais c'était une autre. Ce que vous allez me dire, mais allez-y quand même.
Non, qui disait, oui, Emmanuel Macron a été élu sur un programme il y a 2 ans, mais on ne peut pas considérer que cette élection suffit pour valider tout.
On parle du député insoumis, hein, pardon.
Voilà, ouais. Ça m'a frappé, si vous voulez, non pas que je sois d'accord avec François Ruffin, mais on sent que la vie démocratique a besoin de plus de respiration et que l'élection ne suffit pas à valider un certain nombre de propositions. Donc, le RIC, quel que soit le nom qu'on lui donne, est probablement une manière de permettre une respiration supplémentaire.
Il faudra respecter la parole des Français.
Ah bah oui, bien sûr, oui. S'il y a vote, là, il n'y a pas de débat pour moi, c'est évident. Attention à ne pas tomber dans la Suisse où on vote à peu près pour tout et n'importe quoi tout le temps.
Merci à vous Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, vous étiez ce matin l'invité de France Info.